instant formidable. Je passe, pas de flic en face, ni sur les côtés. Ouf, je suis passé, je suis dans la rue, personne ne m'a vu. Je vais tout jeter sur un gros tas d'ordures. J'ai raconté ça hier à Léa, elle m'a dit mon cœur va voir un docteur. Je n'irai jamais, il m'enlèverait ma petite maladie. Mais le plaisir aussi, et le plaisir messieurs, qu'y a-t-il de mieux, de plus doux mesdames, pour réchauffer l'âme. Je m'en suis confessé, mais le vieux curé m'a dit, ce que tu fauches, que ça serve à quelque chose, donne-le au moins à ceux qui n'ont rien. Mais c'est pas mon style, faudrait que je pique utile, plus au petit bonheur, une plaquette de beurre, n'importe quel machin dont j'ai pas besoin. Faudrait, hypocrite, que je prémédite. Et sur mon honneur, je suis pas un voleur.
Minou, où est-ce qu'il est encore passé ce maudit chat?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et des industries de l'alimentation, animée en direct sans retenue ni complaisance chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Je suis un.
J'ai encore des bonnes oreilles.
Attends, je vais baisser.
Running wild, lost control, running wild, mighty bold.
Édito du 18 mars 2024 du Monde Merveilleux du Travail. Parce que nous sommes précisément le 18 mars, nous ne pouvions pas, dans le Monde Merveilleux du Travail, manquer d'évoquer la proclamation de la Commune de 1871. Il peut paraître redondant de parler sur les ondes de Radio Libertaire d'un événement qui s'est déroulé il y a 153 ans. Oui, ça peut, mais on va le faire quand même, et avec deux invités. Norbert, que vous connaissez tous, puisqu'il est bien souvent invité ici, et Frédéric, son acolyte. De mon côté, j'ai moi aussi mon alcoolique, Eric, à l'animation. Bénédicte sera absente à la technique, ce qui... Et qui, comme son nom, son prénom, voilà, rime avec Dict, et ben, nous rythmera pas à grands coups de musique, de fanfare, nos émissions. Ce sera moi. Pourquoi cette date du 18 mars nous semble-t-elle importante à rappeler? Quel aura été l'impact de cette proclamation? Les conditions d'une révolution sociale sont-elles réunies pour la voir refleurir? Et enfin venger nos martyrs, massacrés par la bourgeoisie écœurante. Nous sommes là pour en parler, entre anarchistes, syndicalistes révolutionnaires et blanquistes, comme à l'époque, quoi.
We'll be right back.
bien, après un départ laborieux, vous venez d'entendre Annie DiFranco et Uta Phillips, des camarades qu'on avait déjà passé avec une autre chanson sur le Mother Jones. Et là, c'était donc une interprétation de l'international. Je sais que ça touche Frédéric, il aime bien les versions de l'international. Oui. Voilà, c'était dans un album de 99, Fellow Workers, je le rappelle, pour ceux qui ont été l'émission à l'époque, c'était comme ça que les camarades des IVV entamaient leur meeting, voilà, ils appelaient leurs camarades.
Donc, un très beau morceau.
Ah oui. Donc c'était l'international, hein, de sans paroles, mais sur l'air de Guetter, mais la chanson de Potier, même s'il n'y avait pas les paroles. Donc ce soir, on reçoit Frédéric de l'AFA du groupe Commune de Paris et Norbert, qui s'est déjà assoupi.
Non, je t'écoute.
De l'AFA, parle bien dans le micro assez près.
Voilà, je suis en train de t'écouter.
Parce qu'il arrive en dernier et puis il nous engueule parce qu'on est en avance. Ça, c'est bien les anards, ça, tiens, ouais. Je te jure.
Je ne polémiquerai pas, mais...
Voilà, donc Eric sera à l'animation, et moi à la technique, Bénédicte étant souffrante. Et on a senti que c'était moi la technique.
Oui.
Et autant que je n'avais pas fait. Hein. C'était le bordel là-dedans.
C'est nous qui souffrons.
Bon. Donc, on te laisse...
Une petite émission, bah oui, laisse-moi la parole enfin, camarade. Une émission, alors ce soir, une émission en trois temps, trois parties, si vous le voulez, qu'on va essayer d'équilibrer. Hein. Ah, oui. La première partie pourrait traiter de comment arrive-t-on au 18 mars, hein, après tout, les origines de la Commune, en quelque sorte. Pourquoi la Commune, les raisons du mécontentement des Parisiens. Hein, parce que là, on parlait de la Commune de Paris, même s'il existe d'autres communes par ailleurs, peut-être antérieures, voire antérieures d'ailleurs pour certaines. La deuxième partie traitera du 18 mars. Nous sommes le 18 mars, donc nous devions traiter du 18 mars. Hein, la circonstance nous y oblige. Et autour, hein, qui conteste la Commune dans Paris, par exemple. Et comment c'est organisé ce 18 mars et pourquoi le 18 mars. Et troisième partie, la mémoire de la Commune. Alors c'est peut-être la partie la plus peut-être la plus novatrice, j'espère en tout cas dans le traitement de la question, puisque en fait il s'agit de l'entretien mémoriel à la fois. Musical, cinématographique, littéraire, et militant, bien sûr. Alors depuis, effectivement, l'événement, puis les conséquences un peu dramatiques qui ont suivi immédiatement, jusqu'à aujourd'hui, finalement, parce que encore debout, la Commune est toujours là. Au moins par les commémorations. Donc, sans transition, on entame cette première partie. Alors, comment arrive-t-on au 18 mars ? Qui a un début de réponse ?
C'est tout un contexte. Hein. Alors, pour faire très bref, c'est mon analyse.
Ah voilà, très bref.
Très bref. Donc, la guerre franco-prussienne qui démarre le 19 juillet 1870, suite au mariage présumé qui devait se faire avec un Hohenzollern et une descendante ou de la famille royale espagnole. Donc déclaration de guerre, parce que bon, les Prussiens retirent cette candidature au mariage, et ensuite Napoléon III demande des excuses pour avoir présenté, ça met le feu aux poudres, ça part. On en arrive après maintes batailles au 2 septembre à Sedan. Et là, Sedan, c'est un désastre, en fait. C'est le premier désastre de Sedan, 2 septembre. Napoléon Bonaparte III, en fait. Napoléon III se rend à l'ennemi. Hein. Donc, deux jours après, le 4 septembre 1870, la République est proclamée à Paris. les Prussiens continuent quand même malgré tout à avancer. Il y a quelques petites batailles de ci, de là. Et Paris est entouré quand même, hein, dans l'automne. Il y a déjà le siège de Paris qui continue. Et puis, bah, le 18 mars, on y arrive. Hein, c'est sur cette histoire de reprise des canons au champ d'artillerie où maintenant c'est riche, cette espèce de truc tout blanc là, qui est pas beau. Le champ d'artillerie des canons. Et donc, en effet, on fusille deux généraux, le général Lecomte et l'autre, je m'en rappelle plus. Et bah, voilà, c'est un peu l'irréparable et on ne peut plus revenir en arrière, quoi, en gros. Quoi. Et il y a quand même un contexte qui va amener. C'est-à-dire un peu le flottement politique, la grogne, et ainsi de suite. Voilà.
Alors effectivement, c'est un résumé un peu lapidaire.
Oui, voilà.
Oui, alors d'abord, la défaite arrive très vite. Mm-hmm. La proclamation suit, tu l'as dit, le 4 septembre, ne résout rien, puisque la guerre continue. Le gouvernement de défense nationale, emmené par Gambetta, résiste, ce qui aussi entraînera, on le dira, j'espère, ensuite, c'est que la Commune va être aussi un acte de résistance à l'ennemi du jour, qui est le Prussien. Mm. Et puis il y a cet hiver terrible, hein, où on va le siège de Paris, ben, on va manger du rat, du chien, de tout ce qui traîne, et c'est le début d'une année terrible, comme le dira Victor Hugo, comme l'écrira Victor Hugo, une année terrible pour les Français, mais surtout pour le peuple de Paris. Et puis l'armistice, hein, en janvier 1871, qui, alors les Prussiens, donc Bismarck, traite avec les tiers en partie, et la condition, c'est d'amener très vite la paix, une paix aux avantages de la Prusse et de l'Allemagne, hein, aussi, parce que il y a la proclamation de l'Empire, et on presse le mouvement pour qu'il y ait des élections, sachant que dans un pays bouleversé où on a quand même des dizaines, voire des centaines de milliers d'hommes, parce que c'est des hommes qui votent, hein, on leur demande de voter, de s'exprimer pour élire une chambre, hein, très vite, pour légiférer, et on leur demande de choisir parmi les candidats, et les candidats, ça a été quand même un tour de force, les candidats qui sont présents, sont essentiellement des notables locaux, avec une forte majorité de monarchistes. Donc c'est un renversement, on proclame la République au bénéfice des monarchistes. Ça, c'est quand même un aspect paradoxal, ou pas tant que ça, mais oui.
Oui, il y a quand même une demande des... Alors, il y a quand même les idées socialistes sont très, sont quand même assez bien diffusées, en tout cas à Paris. Je sais pas, dans le monde rural, je sais pas, on sent tout dans les grandes villes, dans les grands centres urbains et industriels.
Limoges, par exemple.
Voilà, il y a c'est vrai que les on veut, il y a une volonté quand même que des, enfin les socialistes veulent qu'il y ait quand même une représentation ouvrière et que ce soit pas justement que des notables. Donc ça, c'est aussi assez important. Enfin, moi, à mon sens, hein, ces idées socialistes qui sont quand même, sur Paris, très blanquistes, donc insurrectionnelles, et ils n'ont pas peur de faire le coup de feu quand même. Ils ont quand même des propos assez violents. Mmh. Donc effectivement, c'est bien qu'il y ait des élections, mais on sent qu'ils pressent quand même derrière. Hein.
Et Paris, tu as raison, je te dis tout à l'heure, mais il y a la Commune de Paris, mais aussi effectivement des mouvements révolutionnaires communalistes ou en province. Hein, on pense à Périgueux, à Narbonne, à Lyon.
Marseille.
Justement, ce qu'il y a, c'est que Paris est arrivé en troisième position dans le démarrage de des communes. Hein. Parce que là, justement, j'étais en train de rejeter un coup d'œil. C'est vrai qu'on a fait après, donc, à Paris, donc, commune de Paris, mais les premiers, au départ, hein, ça a été Marseille et Lyon. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Mais voilà, de toute façon, ça a été un mouvement qui a démarré à cause de toute façon de ce conflit.
Ouais, voilà. Et Fabrice a raison de dire qu'il y a quand même un substrat révolutionnaire, en tout cas socialiste révolutionnaire, comme à Limoges, hein, qui est une ville rouge, où il y a eu un début de commune, ça n'a pas fonctionné, mais les ouvriers étaient très, très, très présents quand même dans la sphère politique. Alors évidemment, tout ça, il y a quand même... je dirais qu'il y a quand même un effet de traîtrise, parce que Gambetta va favoriser ces candidats qui sont des républicains bon chic, bon genre, en quelque sorte. Et donc, il va pousser... et ça, il va le faire avec quoi? Avec l'aide des préfets. Les préfets, ils ont servi Napoléon, on les a pas encore tous remplacés. Et donc, ils vont servir le régime suivant, hein, c'est les fonctionnaires. Donc, ces candidatures vont être poussées au détriment de ce que Fabrice disait à l'instant, c'est-à-dire des candidatures socialistes. Évidemment, ça va favoriser, par effet de ricochet, les monarchistes, toute la palette des monarchistes. Donc on aura un effet inverse de ce qui était... ce qui était le fond de pensée du peuple, des provinces et puis de Paris.
Puis il y a peut-être aussi ce sentiment de trahison aussi. C'est-à-dire l'armistice, est-ce que tout le monde le voulait ou pas, et ainsi de suite. On conserve quand même les canons quand même à Montmartre. Il y a quand même un ressentiment, hein, parce que pendant l'occupation, il y a quand même des sorties qui sont faites pendant l'automne-hiver 1870, autour de Paris, pour briser le siège, en fait. Hein. Il y a la bataille de Champigny, qui est maintenant dans le 94, qui au début commence un peu, disons, à bien tourner pour l'armée française, puis après ça devient une catastrophe. Il y a quelques sorties qui sont faites, mal préparées, mais bon, on n'arrive pas à briser l'encerclement. Et donc, est-ce qu'il y a encore, disons, au 18 mars ou du moins, cette envie de poursuivre la guerre? C'est ça aussi, parce qu'il y a quand même les canons qui sont là-haut et dont la population de Paris ne veut pas se défaire. Hein.
Bon, il y a une ambiguïté, parce que l'armistice a été précipité parce que notamment les Parisiens, une partie des Parisiens, d'abord la ville se vide, hein, de tous ces bourgeois qui partent vers leur maison de ce qui est aujourd'hui la grande banlieue, mais la proche province. Donc il reste ceux qui ne peuvent pas sortir, pour aller où d'ailleurs, et qui ont aussi, pour certains, sont des militants et des résistants. En même temps, il y a rien à manger, quoi. On disait tout à l'heure en off, la faim appelle la révolution, mais ça appelle aussi la cessation des combats, faute de pouvoir se battre, tenir debout.
Quoi. Oui, mais il y a aussi qu'il faut pas non plus oublier. C'est vrai que là, on est arrivé au moment où les Parisiens qui peuvent sortir ou qui aimerait sortir, c'est que là, on est à un point là, au moment où on en parle, que de toute façon, tout. Alors, on n'est pas guerrier quand on parle de ça là, en ce moment, hein, et tout. C'est que de toute façon, dès le départ du mois d'août jusqu'à et tout, toutes les batailles qui ont été effectuées avec la soi-disant armée française, la meilleure à l'époque et tout, que des défaites. Il n'y a pas eu, à un moment donné, il y en a certains qui ont dit oui, on a récupéré et tout. C'est pas vrai, ça n'a été que, à chaque fois, des défaites. Après, bon, les Prussiens, on va dire les Allemands, après, puisqu'ils se sont appelés après les Allemands, ont, de toute façon, encerclé la veille. Là. Je veux dire, donc, de toute façon, même bon, si quelques-uns ont réussi, y a deux possibilités. C'est ceux qui ont payé, ceux que, comme tu dis, qui avaient les moyens et tout. C'est vrai que la base, hein, donc vous voyez, je veux dire, le simple parisien, on va dire, et tout, même banlieusard, on disait pas ça avant, et tout, ne pouvait pas, de toute façon. Où est-ce qu'il aurait pu aller, déjà? Et comment aurait-il pu faire pour sortir? Parce que la réalité était bien là. L'encerclement était réel, c'était pas une vue d'histoire et tout, parce que déjà l'état de siège avait déjà commencé en août de 70. Hein. Hein, donc je veux dire, c'est pas arrivé au moment de la défaite de Sedan, qui n'arrête pas de nous dire c'est à partir de là qu'on n'a pas pu. Non, ils avaient déjà commencé malheureusement à encercler et tout, puisqu'à chaque fois, à chaque bataille, que ce soit Gambetta, que ce soit les autres, c'était une claque. C'était de toute façon une totale. Alors, est-ce qu'ils avaient envie de gagner ou pas? Ça, c'est autre chose. Hein. Ça ne me regarde plus, ça. Tout. Après, bon, c'est vrai que, comme tu dis, il y a eu ce fait d'encerclement, pas de possibilité de se nourrir, parce qu'à un moment donné, ben, quand tu coupes, hein, que tu veuilles ou non les vivre, tu vas tenir quelques temps. Et puis après, surtout que Paris était à l'époque une des plus grandes villes d'Europe. Hein.
Oui, très peuplée.
Très peuplée. Hein. Donc, à un moment donné, c'était plus possible. Et je pense que oui, les idées socialistes, comme disait Fabrice et tout, étaient, c'est vrai, dans la tête d'un certain nombre de révolutionnaires et tout. Mais je pense que ce qui a vraiment déclenché le fait de tenter le coup, c'est ça. C'est que le fait que, de toute façon, arrivé au dernier moment, de toute façon, on était rétamé dans tous les coins. Donc, de toute façon, il y avait la seule possibilité, c'était de tenter de changer l'idée politique, hein, c'était pas.
Et alors, ce qui est un élément aussi important, c'est que une partie des Parisiens, comme des autres Français, étaient mobilisés, hein, donc étaient prisonniers, prisonniers blessés. On était aussi face à une vague de maladies comme la diphtérie, comme la dysenterie, comme plus le nom m'échappe, peu importe.
Oui, typhoïde.
La typhoïde, exactement, la typhoïde. Oui. Donc on était aussi affaibli, il y avait une surmortalité. Et puis, faut oublier que les premiers Parisiens à lever la tête et à dire non, sauf à me tromper, ce sont des femmes qui ont empêché
que les canons soient embarqués. Voilà.
Oui, ça c'est après, ça. Je veux dire, là, oui, non, mais, on arrive au moment de.
Oui, mais voilà. Il y avait quand même une présence des femmes importante,
y compris
dans la conscience d'être des actrices, puis des résistantes. Parce que là, c'est de la résistance. Hein.
C'est de la résistance. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, bon, même maintenant, mais bon, surtout à l'époque, elles étaient invisibles. Et quand on dit invisible pour la société, c'était une réalité. C'était pas une vue d'esprit. Hein. C'était bien déjà en 1870. Bon, il y a eu quelques progrès, certes, mais c'était ça. Hein.
Et puis, tu avais le bombardement de Paris. Hein. C'est-à-dire aussi que les Prussiens harcelaient la population parisienne par des tirs, je ne sais pas s'ils étaient constants. Victorine Brochet, dans le souvenir d'une morte vivante, parle un petit peu. Alors, au début, ils avaient essayé de conserver comme une sorte de cordon sanitaire autour de la proche banlieue qui n'était pas ce qu'elle est maintenant. C'est-à-dire, il y avait quand même du maraîchage, un peu de troupeaux, ainsi de suite. Ils ont ramené à l'automne des troupeaux, mais bon, bah, c'est pareil, c'est une quantité limitée, c'est fini. Le bois manque à l'hiver 1870-1871. On en est à couper les arbres dans Paris, ainsi de suite. C'est du bois vert, ça fume, c'est pas très bon. Comme tu dis, il y a beaucoup de maladies. Et puis, si je me souviens bien, il y avait une histoire de loyer aussi qu'il fallait payer aussi.
Alors ça fait partie des mécontentements des Parisiens.
C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait eu comme une sorte de suspension des loyers, et à partir, je ne sais plus qui a décrété, si c'est le gouvernement républicain, que d'un seul coup, il fallait payer ses loyers, quoi, en fait, avec le retard, et ainsi de suite. Donc là aussi, contestation, parce qu'après tout ce que les Parisiennes et les Parisiens avaient enduré, ça c'était aussi des... Mais, oui, la conscience de classe, on pourrait peut-être appeler ça aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'en penses, Fabrice? Est-ce qu'on peut parler déjà de conscience de classe déjà?
Oui, les idées socialistes révolutionnaires sont très, très présentes, très diffusées. C'est vrai que les militants ont le souvenir de 1848, de l'arnaque de 1848, de la prise de pouvoir de celui qui va devenir, du prince Bonaparte qui va devenir Napoléon III. Donc c'est une république qui a été...
trahie.
Enfin, plus que trahie, mais enfin, elle était enlevée. On leur a ôté le bénéfice de ce qui s'est passé dans les rues. Et puis, je crois qu'ils veulent pas reproduire 1848. Ils ont le souvenir de 1893. Ils veulent une révolution sociale. 1793, excusez-moi. Ah, mais c'est quand je fais la technique. Enfin, déjà, quand je suis pour la technique, je dis des conneries. Mais alors, quand je fais la technique, je fais deux trucs à la fois.
Pas du tout.
Pas du tout.
Qu'est-ce que c'est que ces confessions
Ouais, Et bah, il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a depuis la Révolution, il y a quand même des gardes nationaux. Alors même si les gardes nationaux sont dirigés par des bons bourgeois, les gardes nationaux sont constitués, on va dire, d'ouvriers, mais commandés par des bourgeois. Et ben, puisque tu parlais des loyers qu'il fallait maintenant payer, rembourser, c'est pareil, la solde des gardes nationaux a été réduite. Et la solde des gardes nationaux, c'est ce qui permettait aussi aux gens, en s'engageant dedans, de pouvoir becquer, d'avoir un peu d'argent pour bouffer.
Exactement.
Un petit complément d'information.
Oui.
Concernant justement ce qu'on parle là des loyers et puis de l'argent qu'on donnait. Tout. Justement, je l'ai juste devant moi. Donc, comme on dit, donc les députés. Ah oui, c'est vrai. Les députés donc votent l'abrogation moratoire des loyers et des effets du commerce. Et après, il supprime la rente qui est donnée donc aux gardes nationaux. Et c'était en 1870, hein, le 10 mars. Je veux dire 71. Ouais. Juste un peu avant.
On n'est pas très bon avec les dates, hein, tout ça.
Je suis pas un dateur, mais je crois qu'il faut aussi, quand on discute d'un sujet, c'est vrai qu'on peut parler de tout un ensemble, c'est sûr. Mmh. Mais justement, quand on voit à peu près comment ça s'est passé au départ, et c'est comme ça qu'on sait pourquoi le 18 mars a été donc l'insurrection des Parisiens pour justement un changement et tout, parce que Thiers avait été remis au pouvoir un peu avant quand même.
Oui.
Hein, l'Assemblée nationale l'avait remis au pouvoir, et donc c'était à Versailles que ça se passait, c'est là que tout a...
Pas à Versailles, on était encore à Bordeaux.
Oui, on était encore à Bordeaux. C'est vrai. Mais après, le gouvernement, donc c'est
une grande
quelques problème. Semaines après, hein, quelques semaines après, donc est revenu et a mis son gouvernement donc à Versailles. Et après, toutes ces petites choses-là sont arrivées ensemble. Et puis.
Et d'ailleurs, petit aparté, Thiers, ça a été comme Pétain. Hein. Quand ça castagne au nord, hein, on va se réfugier un peu.
Oui, oui.
Gouvernement, on va se réfugier un peu à Bordeaux parce que ça pue, quoi.
Sedan.
Et après, ça revient.
Sedan 40, Bordeaux 40, c'est pareil. Ouais. C'est une tradition qu'on fait, hein, les traîtres.
Et alors, parmi les socialistes révolutionnaires de l'époque et tout cet ensemble de militants, il y avait quand même donc un fort sentiment anti-bonapartiste. Anti-bonapartiste, qui s'était exprimé aussi déjà au moment de la mort du journaliste Victor Noir. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, où ça rassemblait pas mal de monde, où effectivement il aurait pu y avoir déjà là une insurrection. On en parlera peut-être après.
Qui couvait, oui.
Mais. Après les raisons pour lesquelles elle s'est pas faite.
Ça, c'est des éléments des éléments qui remontent en fait la chronologie, les raisons du mécontentement du Parisien, hein, qui fait l'objet de notre première partie. Enfin, en tout cas, ça remonte à quelques années avant cet événement qui est la guerre franco-prussienne.
C'est un an avant.
Et surtout, comme tu viens de le dire. Les loyers, on demande de payer les loyers, oui, alors qu'ils n'ont pas un rond. Il y a le chômage, parce qu'on est en période de chômage.
Tout a fermé, pratiquement.
Tout a fermé. Seuls quelques ouvriers travaillent encore. Et, comme l'a dit Fabrice, le seul revenu à peu près constant, c'était, et qui permet de manger, c'est la solde de garde nationale. Et là, le 10 mars.
Il le supprime.
Il le supprime.
Et c'est vrai qu'aussi.
Il le donne plus systématiquement. Voilà. C'est plus donné régulièrement, systématiquement.
Et il y a ce sentiment aussi de. Le mécontentement vient aussi du fait que. On impose un peu des chefs pour les gardes nationaux. On leur impose des chefs qui sont considérés, oui, par les Parisiens, comme des défaitistes, des perdants de la guerre napoléonienne, j'ai dit.
Oui, mais c'est ça, oui, c'est napoléonien quand même. Quoi.
Voilà, donc il y a effectivement tout un agglomérat de mécontentement qui touche les uns les autres, voire tous, qui est propice justement à une explosion sociale aussi quelque part. Alors c'est pas la proclamation de la Commune, c'est peut-être pas une explosion sociale, mais
c'est quand même quelque chose de déclencheur. Et puis je suis pas sûr que Thiers était très populaire en plus de ça, parce que c'était quand même quelqu'un qui a trempé dans pas mal de magouilles politiques, qui a renversé Charles X, je crois, après qui a fait monter sur le trône. Enfin, il était en coulisses, quoi. Hein. Il était un peu en coulisses, Thiers.
Il était en fin de carrière, hein, en 70.
Ah, bah, ils l'ont écarté en 72, 73, parce qu'ils avaient très peur de lui, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient peur de l'Assemblée. Alors, là,
enfin, il était aussi très vieux.
Ouais, beaucoup au-delà. Donc, ça fait pas partie du truc. Mais je suis pas sûr que la popularité de Thiers, même, disons, dans les couches populaires, soit au top, hein, quand même, à l'époque. Parce qu'on, il était connu, hein, il avait quoi, une soixante-dizaine d'années, il me semble, ou quelque chose comme bien frappé. Donc, même les monarchistes et ainsi de suite, ils savaient ce qu'il avait fait à la monarchie au profit de Badinguet, quoi, en fait.
Ouais, enfin, c'était
de la bourgeoisie.
Il défendait les intérêts bourgeois de toute façon. La propriété privée, voilà. Républicain, enfin, il était redevenu républicain, on va dire. C'est comme ça que je le prends. Mais républicain, bourgeois.
Il a été éduqué par les jésuites.
Oui. C'était une famille.
Au-delà, c'est un peu comme Talleyrand, un degré en deçà.
T'es meilleur, Talleyrand.
Oui. Et c'est l'éducation en moins. il a passé tous les régimes, mais comme l'a dit Fabrice, c'est un modèle bourgeois, c'est-à-dire qu'à un moment, défend le confort bourgeois, quel que soit le régime sous lequel il exerce le pouvoir. Là, il va, quand il supprime. L'obligation de payer ses loyers, c'est vraiment parce qu'il y a une partie des propriétaires qui se sont sauvés dans leur maison de campagne ou dans les rentiers, mais qui veulent vivre de leur rente. Et donc, il faut que les prolos continuent à régler leurs loyers parce qu'ils ont besoin d'argent pour vivre.
La petite bourgeoisie qui se croyait.
Les petits artisans
qui se croyaient au-dessus de ceux d'en bas.
Bien sûr.
Mais justement, là, je reprenais parce que là où ça redémarrait, c'est que Thiers diffère la programmation de la République. Hein. Et ça, 5 jours avant, le 18 mars, pour les canons. Donc c'était tellement resserré.
Il est chef de l'exécutif. Hein. Ouais. Il est pas président de la République.
Il est chef de l'exécutif, mais c'est lui qui a quand même différé le truc. Mmh. Et après, il est rentré à Paris.
Et lui, ce qu'il voulait, c'était en fait quelque chose qui rentre dans l'ordre, un ordre bourgeois, tout simplement. Pour lui, on avait perdu la guerre. On allait verser sur le plus, c'était combien 5 millions de marques ou quelque chose comme ça. Laisser l'Alsace. Une partie de la Moselle, et lui, comme tu dis, il est bourgeois.
C'est milliards, pas des milliards.
C'est millions, c'est millions, milliards, milliards, 5 milliards d'euros de francs, quoi, en fait. 4 milliards de francs, de francs or, peut-être, même certainement des francs or, certainement. Et donc, tu parlais de Thiers et Talleyrand. J'avais lu une biographie de Thiers. Ils se sont un peu côtoyés, quand même. Parce qu'il était de magistrat de profession, Thiers. Hein. C'est-à-dire que je ne me rappelle plus s'il était avocat ou je ne sais plus quoi. Il a eu, disons, cette formation. Hein. C'était quand même, disons, il était issu d'une famille bourgeoise du sud de la France, Aix-en-Provence ou quelque part par là. Il est monté à la capitale. Mais il était quand même, comme dit Norbert, il a eu une éducation que tout le monde n'avait pas à l'époque, hein, ça c'est clair. C'est comme ça que d'ailleurs il a commencé à rentrer en politique, comme souvent, quand on côtoie, le barreau ou des choses comme ça, enfin, et tout, quoi.
C'était un sacré opportuniste.
Fermons
le banc sur Monsieur Thiers.
On passe
une petite musique, camarade.
Bien sûr, ça vient tout de suite.
Camarade blanquiste.
Oh, arrêtez de le flatter. Hein.
L'insurgé, son vrai nom, c'est l'homme qui n'est plus à la bête de somme, qui n'obéit qu'à la raison.
et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. On peut le voir aux barricades, descendre avec les camarades, riant, blaguant, risquant sa peau. Et sa prunelle décidée s'allume aux splendeurs de l'idée, au reflet pourpré du drapeau.
Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé.
En combattant pour la commune, il savait qu'on ne doit pas la diviser, que la nature est une source et le capital une bourse où tous ont le droit de puiser. Il revendique la machine, il ne veut plus courber les chines sous la vapeur en accident. Puisque l'exploiteur à ma rude fait instrument de servitude, un outil de la rédemption.
Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse le fusil chargé.
Contre la classe patronale, il fait la guerre sociale dont on ne verra pas la fin. Tant qu'un seul pourra sur la sphère devenir riche sans rien faire, tant qu'un travailleur aura faim. À la bourgeoisie écœurante, il ne veut plus payer de rente. Combien de milliards tous les ans? C'est sur vous, c'est sur votre viande qu'on dépaisse un tel dividende. Ouvriers, mineurs, paysans,
devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé.
Attention.
Eh bien voilà, c'était Mouloudji qui interprétait l'insurgé, ouais. Une véritable chanson blanquiste. Eh ben oui, si j'ai signé aussi Eugène Potier et De Guetter, Pierre De Guetter. Voilà.
Quelle année Mouloudji?
Là, ça c'était une... Je sais pas quelle année il l'a chanté, mais c'est dans un album qui est sorti en 1971 sur.
Attends, on se croit sur
FIP. En chantant.
On se croit sur FIP, tu jazz à FIP, tu sais, c'est... avec Duke Ellington à la basse en 1921.
Pour les chanteurs. Ah, Duke Ellington à la basse, oui. Ça devait être
on
ça.
On
n'est
pas sur FIP. On n'est pas sur FIP, on est sur Radio Leader.
Sur FIP.
Eh ben oui, c'est bien de le rappeler. Merci, nous sommes à l'écoute du monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4 et sur l'émission qui traite
de la commune du 18 mars.
Puisque nous sommes le 18 mars 2024, mais là c'est le 18 mars 1871 qui nous intéresse. Et bah, on va entamer quelque chose comme la deuxième partie.
Et oui, hein, et cette deuxième partie, alors le 18 mars... le fameux 18 mars, qu'est-ce que c'est d'abord? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a déterminé? Est-ce qu'on est dans un mouvement révolutionnaire le 18 mars? Est-ce que c'est une action révolutionnaire? Est-ce qu'il y a c'est une journée particulièrement éclatante, remarquable? À quel titre? Je vous pose la question. Arrêtez de hocher la tête, vous allez me répondre. je n'arrive plus à me lire. Que conteste la commune? Qui conteste la commune dans Paris? On a eu une petite idée, mais que s'est-il passé ce 18 mars pour qu'on en parle aujourd'hui et que ce soit un anniversaire?
Allez. Principalement, la volonté, c'était un régiment de l'armée française qui monte en direction de la butte Montmartre pour se saisir des canons qui avaient été fondus sur souscription des Parisiens. Des fois, c'est faut pas vieillir. Hein. Et donc, ça passe pas, ça. Déjà, le coup de la défaite, ça passe pas pour certaines et certains, ça non. Et donc, en plus de ça, ces canons sont aux Parisiens, ils sont pas à l'armée française.
Donc, sursaut patriotique
au départ, oui.
Oui, je pense, quand même. Parce qu'il y a quand même cette histoire de défaite pas avalée, pas digérée, quoi, en fait. Hein, c'est-à-dire, c'est une défaite. C'est une grosse défaite. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est quand même que ces combats ont été très violents, qui ont fait beaucoup de morts, et de part et d'autre. Et c'est cette impression de trahison. De trahison, en fait, on voulait poursuivre le combat. Enfin, certaines personnes voulaient poursuivre le combat malgré le siège, malgré tout ça. Et donc, là, le 18 mars, trop c'est trop. Après, c'est hiver, et ainsi de suite, comme tu le rappelais si bien. Donc, trop c'est trop, quoi.
Et quelle est la déclaration qui a marqué ce 18 mars 1871?
Moi, je pense que, comme je te l'ai dit un peu avant la chanson qui nous a mis.
Pendant la musique, vous n'écoutiez pas. Vous êtes en train de jacter.
Si,
c'est ça que tu es en train de me dire.
Non, non, t'inquiète pas, j'ai l'air comme ça, mais j'écoute et j'entends.
Ses facultés.
Et pour le moment.
Pour le moment.
Et tout. Mais comme on disait, quand on va répéter, c'est que 5 jours avant, Thiers avait, spolié la République, puisqu'il avait les décrets qui étaient faits pour que la République se mette en marche, lui, il les a donc...
Abrogés.
Donc ça, je pense... Alors, est-ce que le peuple le savait ou pas? Je pense pas, mais une certaine catégorie, c'est vrai, de révolutionnaires, oui. Oui. Mais je veux dire que toute la population, même ouvrière, était au courant de ce qu'avait fait le pouvoir royaliste, hein, on ne peut pas dire autrement, hein, dire que Thiers, puisqu'il n'en voulait pas de la République.
Non, il n'en voulait pas.
Donc, c'est vrai qu'il y avait quand même cette peur, effectivement, d'une restauration monarchique.
Voilà.
Oui, aussi, oui.
Voilà.
Oui.
Tous ces événements, les unes après les autres... On fait, et surtout, oui, comme tu disais il y a 5 minutes, quand ils ont vu arriver une troupe pour leur enlever les canons parce qu'ils avaient signé une armistice de la pire de ce qu'il pouvait y avoir comme en 40 et tout. Donc ils devaient normalement ne pas utiliser et rendre les armes et tout, donc les rendre, comment on pourrait dire comme terme, démunis totalement.
Désarmés, quoi.
Ce qui ne veut pas dire que c'est parce que tu vas tenir une arme que tu vas réussir quelque chose. Mais dans certains cas, je pense que ça a l'air malheureusement, ça a l'air d'être utile. Je suis désolé pour les pacifistes, hein, mais je crois dans certains moments, j'aimerais bien dire qu'il ne faut pas utiliser ces choses-là.
Mais Fabrice disait tout à l'heure qu'il n'était pas sûr que les canons étaient en fonction. Enfin, étaient en capacité de fonctionnel.
C'était pour après les refaire, les refondre et puis en faire d'autres choses. Mais de toute façon, c'était dans la signature de l'armistice, tu devais rendre totalement tout ce qu'il pouvait y avoir.
Et tout ce qui ressemble à une arme, en fait.
Voilà, de possibilité d'attaquer, en fin de compte, ceux qui tenaient le siège.
Alors, dès le 19 mars, dès le lendemain, il y aura c'était en gestation le jour même, peut-être même avant. Dès le 19 mars, il y a le journal officiel de la commune qui va paraître. Donc ça veut dire qu'il est au début c'est très bref, hein, les nouvelles, c'est des nouvelles c'est des brèves en quelque sorte, des nouvelles de guerre, des nouvelles de la situation, je sais pas si ça tient pas en deux pages, enfin, ou même une. Ça s'est préparé comment? Parce que c'était un pied de nez au journal officiel de la République française, qui continue à paraître, hein, par ailleurs. Qu'est-ce qui a déclenché ça le 18 mars? Si c'est le 18 mars.
Le 18 mars, je pense que de part et d'autre, hein, c'est-à-dire les Parisiennes et les Parisiens qui ont disons, résisté à la prise des canons et qui ont fusillé
Clément Thomas. Généraux, hein, oui, Clément Thomas et puis.
Thomas et Lecomte, hein, ouais. Je crois que c'est ça. Et donc là, est-ce que tout le monde se rend compte qu'il y a quand même quelque part, je ne vais pas dire. Oui, quelque chose de gravissime, et que le pouvoir de Versailles va certainement réagir, quoi. Et en plus de ça, la troupe qui était venue, une partie de cette régiment d'infanterie, hein, c'est-à-dire l'armée, ce qu'on dit l'armée régulière, mais croissant l'air. Donc
la ligne,
ouais, voilà, c'est ça. Et donc est-ce qu'il y a une prise de conscience de dire bon bah là on a fusillé, ils vont nous raccourcir, enfin ça va mal se passer les prochaines fois.
Et c'est ça le problème avec les conscrits, c'est que souvent ils sont issus du peuple, et puis du même peuple que ceux qui, pour lesquels ils interviennent. Ah bah du coup, bah oui, ils mettent plus facilement cross en l'air, ils reconnaissent les parents en face. Alors bon,
voilà, bah. C'est ça. Enfin, maintenant ils n'ont pas lié à ça, hein. C'est-à-dire qu'ils te changent de religion,
eh ben oui.
Pas avoir de...
Cross en l'air, c'est arrivé que une ou deux fois, hein, quand même.
Alors
Fredo a raison. Il y a eu une fraternisation entre la population et des soldats, des soldats, enfin des conscrits peut-être plus que c'est pas les officiers. Hein.
Oui, bien sûr, les officiers des carrières. Ouais.
Oui, les conscrits quoi.
Donc ce 18 mars, une partie de la troupe a rejoint les Parisiens. En leur apportant au moins du nombre, à défaut de stratégie ou de idées révolutionnaires, parce que c'était là dans un esprit, on l'a dit tout à l'heure, plutôt patriotique, hein, plutôt que révolutionnaire et socialiste ou libertaire.
Ça dure encore 3-4 jours avant, oui. Vraiment, parce que réellement, donc, comme il est dit là sur les écrits, l'installation de la Commune de Paris, c'est le 27 mars. Quand on dit l'installation, hein.
À l'hôtel de ville, tu parles. L'installation à l'hôtel de ville, quoi.
De toute façon, voilà. Oui, et
la
donc,
proclamation, peut-être.
Tous les députés qui avaient été élus avant et tout, une grande partie ont démissionné. Mais même l'ami de Louise Michel, Clémenceau. Hein, donc,
ils étaient amis, c'est vrai.
Là, et tout. Et donc, même lui, qui était soi-disant progressiste à l'époque, hein. Et tout, on a vu la suite, a démissionné.
Oui, donc, il s'en souviendra quelques années plus tard, le père Clémenceau, de cette trahison quand il s'est pris une balle dans le dos, là, sa bagnole ou je ne sais plus où.
Oui, mais bon, il a survécu.
Oui, ben, il l'avait toujours, il n'a pas voulu la faire retirer. Hein.
Donc voilà, c'est ça.
Il y a des souvenirs comme
ça. C'est vrai que le 18 mars, ça a été, c'est vrai, quelque chose de voir arriver les soldats, vouloir récupérer tout, donc ça a irisé les communards, je veux dire les Parisiens, puisqu'on les appelait les communards après, mais je veux dire les Parisiens, de dire, bah, attends, on perd la guerre, on est comment dire ça, encerclé, je veux dire,
affamé.
Et en plus, l'autre donc nous interdit la République. Bon, même si elle était peut-être pas parfaite, hein, c'est sûr, hein, et tout. Mais l'autre dit non, niette, et tout. Bon, c'est sûr que ça
est dépouillé. Il est menacé d'être dépouillé.
Tout ce qui pouvait leur rester, jeté même à la rue, parce que tu payes plus ton loyer, ainsi de suite, t'es jeté à la rue à l'époque. Il n'y a pas de protection du locataire.
Ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'aussi qu'ils avaient remis le Mont-de-Piété une journée avant.
Chez ma tante, comme on
dit. Donc tout ça, c'était des petites choses petit à petit qui a fait que, bah oui, la population, elle est pas, même si elle n'était pas instruite, elle n'était pas non plus complètement
débile.
Idiote, hein, je veux dire, elle voyait bien ce qui allait lui arriver et tout. Et donc voilà, mais tout ça c'est arrivé par étapes et tout, et c'est après que petit à petit, la commune s'est installée, et puis tout ce qu'on en sait, qu'on en parlera par la suite, et malheureusement la défaite et tout.
Donc le 18 mars, il n'y a pas de commune.
Ben, si je relis bien...
Il n'y a pas de proclamation, je sache.
Réellement, l'installation, comme ils disent, c'est à partir du 27 mars.
Hein. La proclamation, peut-être, ou quelque chose comme ça.
Et proclamation solennelle, le 28.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc, je veux dire, on sait très bien que quand quelque chose démarre, c'est jamais le jour même.
Il faut le mettre en place, effectivement.
Que ça se met en place, hein. Il y a toujours.
C'est un peu comme vos trains, hein. On sait quand ça. On n'est pas arrivé.
Donc voilà. Mais disons que c'était
private
parti.
Joke.
C'était parti. Je veux dire la chose était partie. Mm. Voilà, et tout. Alors, elle a tenu.
Amis auditeurs, donc retenez, le 18 mars, c'est pas la déclaration de la commune, ni la proclamation, ni c'est le déclenchement de ce,
ce qui deviendra
la commune sous 8-10 jours.
Après, si certains ne sont pas d'accord avec ce qui est écrit dans les livres, il faut qu'ils nous le disent. Voilà.
Pourquoi ils ne seraient pas d'accord?
Alors, ça n'a peut-être pas fonctionné, mais tout le staff, on va dire, n'était pas en place, mais ça a quand même eu son effet, puisque quatre jours après, il y a quand même eu une manifestation contre cette proclamation de la commune. Parce que dans Paris, effectivement, Eric, tu as évoqué tout à l'heure que les bourgeois se sont tirés plutôt vers Versailles. Il restait quand même un certain nombre de personnes, et des personnes qui étaient hostiles. Donc il y a eu une manifestation qui a eu, je ne sais plus dans quelle rue, quel chemin l'a emprunté.
Quel parcours.
Et aujourd'hui, on dirait que c'est une manifestation d'extrême droite.
Voilà, c'est ça.
Avaient-ils déclaré leur parcours en préfecture?
Ouais, en préfecture.
J'avais du mal, parce que Pierre leur avait dit de tout faire pour pas que ça se fasse.
Alors, je sais pas si c'est à l'initiative de Thiers, mais en tout cas, il y avait quelques anciens combattants et des gens qui connaissaient la guerre, et ils étaient armés aussi. Après, effectivement, une fois que la commune a perdu, été décimée, effectivement, on aura pu dire que c'était des ivrognes, des pétroleuses, des femmes, voilà, des incendiaires, tout ce qu'on veut, des gens méchants, des mauvais. Mais ils n'étaient pas si mauvais que ça, puisque les gardes nationaux n'ont pas tiré, alors qu'ils avaient en face d'eux des manifestants belliqueux, ils n'ont pas tiré. Pas tout de suite.
Un nouvel aparté, les pétroleuses, c'est de la légende urbaine.
Il ne fallait pas prendre ça au premier degré.
Elles n'ont jamais existé. C'est carrément de la légende. C'est pour dans le climat. Là, on va trop loin là dans l'histoire.
Ça fait une petite.
C'est un terme qui leur avait été donné parce que c'était.
Ça arrangeait bien le pouvoir.
Ils les considéraient comme des harpies.
Exactement.
Oui,
il y avait des saints à l'époque.
Ce terme-là parce que ils étaient dans la. Ils sont combattu, un grand nombre ont combattu dans la commune et ont même proposé des choses qui n'ont pas toujours été acceptées même par des communards, parce que ça ne faut pas non plus idéaliser la totalité de tout. Il y a eu des bonnes choses qui ont été proposées et faites, mais il y a aussi eu des combats qui ont eu lieu entre communards. Alors quand je dis combats, pas des combats...
Non, bien sûr, pas des militairement, combats, mais politiques.
Politiques.
À l'hôtel de ville, tout le monde n'était pas d'accord.
Mais c'est pas pour faire une régression de la commune de Paris. Mm. Mais il faut aussi parler de ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas fonctionné.
Ils n'ont pas tous été blanquistes.
Voilà.
C'est bien le drame. C'est bien
le drame. Il était libre à la commune.
Non.
C'est toujours.
Et tout. Donc voilà. Donc s'il y a ça, et puis surtout ne pas dire d'accord, il y a eu la défaite parce que les Versaillais ont gagné militairement et tout, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que est-ce qu'on aurait réussi totalement ? On ne sait pas. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui disent oui, on aurait réussi. On ne sait pas, on dit ça maintenant.
C'est le problème, on va dire que c'est...
Des révolutions.
Un gouvernement libertaire. Le problème des gouvernements libertaires, c'est qu'effectivement, tu jactes, tu imposes, tu essayes de ne pas imposer. Non. Donc il y a beaucoup de discussions, et je crois que beaucoup ces discussions, ça plombe un petit peu l'action quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas lu tout, hein, ce qui s'est tout ce qui s'est fait sur le sur la commune, mais il y avait Gérald Dittmar qui avait édité. Il a plusieurs bouquins, mais moi j'ai lu celui qui traitait de Courbet. Et waouh, pardon.
Oui.
C'est vrai qu'il y a quand même, ça se passe beaucoup dans les assemblées, et c'est vrai que ça jacte.
Bah,
ça parle plus que ça n'agit. Donc, en fait,
pratiquement jusqu'à la fin, personne ne sait quoi faire contre l'avancée des Versaillais et ainsi de suite. Et comme tu dis, il y a des parties conflictuelles, comme disait Norbert. Tout le monde n'est pas d'accord sur tout et ainsi de suite. Mais bon, à la Commune de Paris, t'imagines, c'est tellement riche, pratiquement chaque jour. Il y a des faits.
Mais je suis d'accord.
C'est incroyable même. C'est incroyable.
Pour revenir au 18 mars, c'est la création du comité central avec Jourde, Varlin, qui commence à se constituer une espèce de
d'ossature,
pôle de alors pas de direction, mais de pôle de on va dire de
administratif
pour mettre en musique le mécontentement. Je pense que là ça va très vite. Contrairement à ce qui va se passer ensuite dans la décision et l'entente de la décision pour réagir face aux Versaillais, là, les premiers jours, je pense que ça va aller, et c'est peut-être de leur initiative d'ailleurs, d'une poignée de... On peut y mettre l'hypothèse, et quand on sait que c'est parmi les plus idéologiquement...
De ce qu'ils avaient en pensée.
Donc dès le 18 mars. Donc
18-19 mars, il y a la proclamation du comité central, la constitution du comité central.
Alors je sais pas, moi j'ai pas lu ça, Victorine Brochet, c'est le seul témoignage moi que j'ai lu. Elle était quand même assez branchée politique, mais j'ai pas vraiment lu d'autres trucs. Est-ce que toi, si tu as des infos, est-ce qu'au soir du 18 mars, est-ce que quelque part il y a un sentiment de se dire on a passé un cap, on a fusillé deux généraux, donc maintenant il faut qu'on agisse.
C'est pas tout à fait comme ça. Pour une minorité, il y a l'idée de se constituer en pôle de résistance. Après, il ne faut pas oublier que toutes les informations ne circulent pas.
À la vitesse d'aujourd'hui.
On est assis, déjà.
Et puis, il y a le doute sur les informations qui circulent. Oui. C'est-à-dire que, faut pas oublier que Paris est aussi au circule des espions. Et des rumeurs qui viennent, des fausses nouvelles. Enfin, voilà, on essaie.
Déjà à l'époque.
On se méfie aussi les plus avertis des militants politiques. Je pense à Varlin, à Jourde, à tous ces gens qui, à un moment donné, t'as des nouvelles, tu sais pas s'il faut les vérifier, quoi. C'est la base. Donc je pense que c'est de leur propre initiative sur pour le coup, c'est vraiment de la résistance. C'est-à-dire que dans un premier temps, on s'organise pour résister. On va pas se laisser faire. Après, on sait pas trop ce qui va se passer, mais petit à petit ça va se dessiner. Mais le soir du 18 mars, le comité central, c'est un peu organise, c'est-à-dire que l'idée c'est de rationaliser la résistance administrativement, quoi. Donc chacun serait parti, ses postes.
Disons par peur de la répression de ce qui s'est passé, quoi, en gros.
Ah, mais la répression a continué après. Entre le 18 et là, quand je te dis le 28 mars, quand il y a eu vraiment la programmation, je veux dire, là, rapidement, au Mont-Valérien, ils récupèrent les troupes versaillais, et ça, on était au 20 mars, tout. Après, il y a eu la manifestation des amis qui a été totalement, ils disent exactement, sévèrement réprimé. C'est ce que ça voulait dire à l'époque, il y a dû y avoir des morts par balles et tout ça, et tout. Donc voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et puis même si après, il y a eu des communes qui ont voulu se créer, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que pendant qu'à Paris, on créait la commune de Paris, il y a aussi des villes qui ont tenté de mettre en place aussi leur commune. Même si elles ont duré moins de temps que d'autres, elles ont essayé. Donc vous voyez, donc c'était pas seulement, c'est vrai que là on parle de Paris parce que nous sommes à Paris et que nous sommes proches nous de Paris, mais je veux dire dans d'autres grandes villes, il y avait des vraiment
oui, aussi, un climat,
je veux dire c'était pas spécifique.
Il y avait un climat, mais disons que dans Paris, d'abord il y avait beaucoup plus de monde sans doute, et il y avait une concentration de d'acteurs, tu vois, de militants. Aussi.
Oui, il y a ça. Tu et vois, puis il y a surtout.
Ça a joué. C'est...
On va se répéter, mais on était assiégés. Que les autres villes, même si la France, une partie de la France avait été occupée par les Allemands, elle n'était pas totalement occupée.
Ah non, totalement non.
Voilà, donc bah, comme ça s'est passé pour, en 14-18, comme ça s'est passé en 39-40, je veux dire, voilà. Et puis après, ainsi de suite.
Non, mais justement, donc, voilà, enfin, dans les villes autres que, voilà. que Paris, tu pouvais voilà. plus facilement réprimer aussi.
Oui, ah bah oui, ça, bah, c'est, bah, c'était la, comment on va dire, la maison mère. Des politiques, hein. Ça l'est toujours. Hein.
Alors, le fameux comité central va, dès le lendemain, dès le 19 mars, va envoyer des émissaires, des couleurs d'affiches, avec une proclamation qui dit aux Parisiens, voilà, on n'est pas un gouvernement, on est simplement là pour organiser, pour essayer d'organiser la résistance autrement, sur la base de ce que vous voulez en faire. Ça, c'est par contre, c'est novateur. C'est-à-dire que...
Oui, c'est pas imposé, quoi.
Voilà. On est des techniciens mandatés par... Alors, du coup, ils sont mandatés certainement par ceux qui sont autour, enfin, la population autour. Et puis après, ça s'élargit. Et par voie d'affichage, donc, on lance un appel au peuple de Paris pour savoir ce qu'il veut faire et comment il veut orienter l'aventure.
Quoi. Et puis l'organisation va être quand même beaucoup décentralisée par rapport à l'hôtel de ville aussi, chaque arrondissement. Quoi.
Oui, on sait ce que deviendra la commune, mais... c'est un peu quand même fort, c'est un pari de dingue. Pensez-y, on organise quelque chose de nouveau alors que dehors, il fait froid, on a faim, c'est la guerre. Ouais. Et les mecs, quand même, ils se lancent dans un truc de dingue, quoi. Faut imaginer, quoi.
Un peu comme en 36 pour les Espagnols, hein, c'est-à-dire, il y avait la guerre et tout. Et ils ont tenté de vouloir mettre en place...
Malgré
parce que bon, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, la commune, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été mis en place et tout, patati patata. Mais je les aurais vus, moi, à l'époque, quand tu es donc encerclé, tu as le trois quarts des politiciens qui sont contre toi. Je veux dire, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'était une minorité qui était pour la commune de Paris. Hein. Mmh. Ils ont toujours été...
Je ne pense pas qu'il y ait de politiciens pour la commune, mais bon...
Non, mais quand je dis politicien, oui, je pourrais choisir un autre terme, mais c'est de la politique quand même. Je veux dire, la commune de Paris...
Je crois que c'est même... politicien, c'est...
Oui, voilà, c'est le terme peut-être politicien. Même, ouais. Mais c'est, je veux dire, la commune de Paris,
c'est pas leur métier.
Une idéologie politique quand même, philosophique et politique.
Bien
sûr, et tout, qu'on sait très bien que la plupart ne voulaient pas. Je veux dire, c'était même pas la peine de leur en parler ou de... Et tout, très peu ont donné un coup de main pour que cela puisse se mettre en place, hein. Ils ont toujours été battus à chaque fois. Et pendant qu'ils essayaient de mettre en place, comme tu dis, Fredo, des tas de choses qu'on connaît, hein, et tout. Hein. Je veux dire, séparation de l'Église et tout ça, qui s'est fait à peu près une dizaine de jours après, justement, le 18 mars et tout. La semaine où ils ont mis ça en place, il y avait déjà des combats qui avaient lieu pour éviter que les Versaillais arrivent. Je veux dire, les batailles, elles n'ont pas commencé la dernière semaine. Elles étaient encore là.
Il y avait des sorties.
Elles étaient toujours là, les batailles. Donc, il fallait en même temps faire attention de ne pas se faire prendre. Et tout, et de l'autre côté, de tenter de mettre en place, je veux dire, une pensée philosophique et tout, et politique d'un changement.
Alors, c'est la mise en place technique, parce que je pense que tous les personnages dont on a parlé, ils avaient déjà mûri leur. Au cours du.
Ils avaient connu 48,
au cours des années précédant la
défaite. Ils avaient passé effectivement.
La trahison de 48, hein.
Ils avaient passé effectivement cette idée de, on a des représentants comme en 48 pour une république. C'est vraiment une république où on veut faire participer les ouvriers, donc vraiment toute la population. Pas oublier que les mecs comme Varlin, tout ça, avaient mis en place déjà des marmites, des comités de solidarité pour nourrir les plus nécessiteux. Ils organisaient effectivement des grèves, donc ils faisaient prendre conscience aux ouvriers de leur capacité politique, hein, comme le disait Proudhon. Je pense qu'il y avait vraiment la volonté de faire participer un maximum à faire en sorte que tout le monde soit acteur de sa propre vie. Et que ce soit pas juste, tu vas voter tous les 4, 5, 6, 7 ans pour avoir des représentants qui vont agir pour toi. Je pense que ça, c'est important.
Donc, l'originalité, pour conclure cette deuxième partie, avant un petit intermède musical...
Pour la troisième.
Oui, si possible. En conclusion, c'est ce 18 mars... Il est contesté, voilà. Mais il n'empêche que c'est un tour de force à la fois politique, humain, que d'avoir lancé ce projet malgré les contraintes, on va dire, extérieures et intérieures. Musique.
Oui. Musique.
Gentlest souls, I robbed my wife and son. I turned my back on troubles, troubles I'd begun. I cut a swath of pain and loss in the hallways of my home. In the quiet of my room, I know the things I've done. Save the hammer for the man. Save the hammer for the man. It's the calling of the wretched. It's the rising of the damned. Save the hammer for the man.
I was driven from the city. In the wilderness I stand. In the cleansing rain and silence I made my battle plan. Alone I marched towards freedom, leaving footprints across the land. With a vow that's left unspoken, save the hammer for the man.
Save the hammer for the man. Save the hammer for the man. You're never too far down the wrong road to turn back and change your plan. I stand in the cleansing rain and silence. I made my battle plan.
I will whisper words of freedom. I will swing hard as I can. Lord knows the time has come. And save the hammer for the man. For the man.
Save the hammer for the man. Save the hammer. Bend.
Vous êtes sur Radio Libertaire à l'écoute du monde merveilleux du travail. Donc Radio Libertaire 89.4 MHz. Et vous venez d'entendre The Night Watchman. Okay. Un groupe emmené par Tom Morlow et qui chantait en duo avec Ben Harper. Un morceau qui s'appelle Save the Hammer of the Men.
Enregistré quand?
En 2011, dans l'album Worldwide Rebel Song.
À quel endroit? Voilà. Nous ne sommes pas sur FIP.
Tom Morlow, je te signale que c'est un camarade des Industrial Workers of the World. Et c'est l'ancien, l'ancien peut-être quoi. Nouveau, parce que je crois qu'il se reforme, le guitariste des Rage Against the Machine. Tu fais moi le malin là.
Et la culture, c'est quand même.
C'est comme, comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
C'est normal, tu vois, il travaille à la culture, il connaît.
Méchant comme la
culture. Bon, reprenons la commune.
Alors, c'est bah oui, la commune.
La troisième partie.
On va se faire engueuler en plus.
C'est dingo ça. Presque blanc. Troisième partie. Mais tais-toi. Troisième partie. La mémoire de la commune. Alors, l'entretien mémoriel. De cette commune de Paris depuis les quelques mois qui ont suivi sa conclusion sanglante jusqu'à aujourd'hui finalement. Mm-hmm. C'est parti.
Écoute, un truc anodin, enfin anodin qui n'est pas si anodin, ça, j'ai un compte Twitter, on en pense ce que l'on veut, et des fois ça permet quand même de passer, je vois quand même pas mal de groupes libertaires.
Compte X
sur X, anciennement X. Twitter, ouais, mais c'est comme les centimes d'euros, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Donc oui, sur X, et et donc j'étais étonné aujourd'hui de
X,
voir
YouPorn,
des comptes sur lesquels je suis abonné, puis d'autres non, l'IFA, des gens de Pologne, de Bulgarie, de Turquie, d'Amérique centrale.
Enfin, tu vas pas nous faire tous les...
Qui mettaient un petit post, un petit tweet, un petit X, pour commémorer le 18 mars. J'étais très étonné de voir que quand même, dans le monde, c'est une date qui se commémore encore, quoi, tu vois.
Comment ça va? Étonné, traître.
Moi je suis pas étonné. Alors, pour la commémoration, effectivement, je crois que ça s'est fait, mais tout de suite, enfin dès qu'ils ont pu.
Oui, surtout ça.
Parce que c'est vrai que pendant la semaine sanglante, ils n'ont pas commémoré grand chose.
Non,
l'année d'après non plus, à mon avis. Ouais. Mais non, je crois que très tôt quand même. Il y a eu d'abord parce qu'il y avait des survivants, alors surtout après l'amnistie de 1881, il y a eu ils ont pu se créer constituer en association les anciens combattants, et il y a eu toujours des petits les survivants aux déportations de Calédonie, eux aussi ils ont en rentrant au pays, ils ont rapporté des... Enfin, ils ont commémoré à leur manière un petit peu cette date du 18. Alors je crois qu'il y a la date du 18, puis il y a aussi le... C'est combien le
28.
La fin aussi de la semaine sanglante. Il y a ces deux dates quand même qui sont...
Il y a quelques photos qu'on voit dans le début du 20e siècle. Je ne m'en rappelle plus, il y a une dame... il y avait quelques anciens de la commune, on les voit très âgés. Et je me demande s'il n'y a même pas un court film qui les montre aussi.
Oui, Armand Guerra.
Oui, c'est ça.
Il y a un...
Je m'en rappelle plus.
Donc il y a un film muet en 1915, 14 peut-être même,
oui,
14,
oui,
qui était fait par Armand Guerra. Qui s'appelle La Commune, et à la fin duquel, alors c'est un film qui dure une quinzaine de minutes, c'est pour ça que j'ai confondu 1914, et à la fin duquel on voit effectivement l'association des anciens combattants de la Commune, parmi lesquels il y a Zéphirin Camelina, Nathalie Lemel,
voilà.
Et Jean Alman. Voilà. Alors, c'est pour ceux qui sont identifiés, parce que quand on voit les autres avec des barbes particulières, peut-être de leur époque, mais on sent que ils ont de la bouteille, ils ont déroulé du câble, mais on connaît pas les noms. Voilà. Alors, il y en a trois qui ont été identifiés. Et alors, c'est en 1914, donc c'était une quarantaine d'années. En plus, ils avaient connu la Calédonie, les trucs. Donc, ils sont revenus un petit peu abîmés quand même. Mais ils sont là.
Et les quelques images sont assez mouvantes quand ils se laissent. Ils sont filmés, donc on sent qu'ils ne sont pas super à l'aise, mais en même temps. Ils sont assez fiers, alors c'est un mélange, je crois que c'est assez, assez émouvant comme moment.
Il faut dire aussi que c'était les prémices hein, quand même pour tout ce qui était cinéma. Hein. Donc c'est pas
c'était pas une habitude pour les gens, c'est sûr.
Et sinon, existait depuis déjà une vingtaine d'années quand même. Voilà. Alors juste pour terminer.
Bah, oui, vas-y.
Si.
Méliès.
Oui. Je voulais quand même faire. Alors, pour ceux qui voudraient, qui ont internet et qui voudraient le voir, je vous invite à aller d'abord le voir sur le site de la Cinémathèque française.
Oui.
Et puis, en plus, vous aurez tout un petit déroulé qui explique effectivement comment c'est constitué. En fait, Armand Guerra a fait ce film parce qu'il y a une société de production coopérative. Le cinéma du peuple. Et ce comité de création du cinéma du peuple auquel appartenu Sébastien Faure. Hein, donc, fondateur du journal Le Libertaire.
Le Libertaire.
Enfin, bon, c'est pas vraiment lui qui l'a. On a déjà parlé du Libertaire, c'est pas lui qui l'a créé, il l'a repris.
Oui.
Un journal qui a. Oui. Mais bon, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce film parle de la commune. Il a un fonctionnement. Alors, c'est sans commune mesure avec les. Avec les moyens de
l'époque.
Je sais pas, c'est quoi, de pâté hein, d'époque. Je sais pas, ça devait être du 16 000 francs. Pâté, c'est 30 millions. Bon, voilà.
Donc, bah, c'est des images, comme tu dis, émouvantes et puis historiques, voilà. Quelque part.
Mais n'empêche que c'est quand même 40 ans après. C'est une manière. Alors là, effectivement, ça parle vraiment de la commune, avec un fonctionnement, un comité donc de création qui est basé. Beaucoup dans le milieu libertaire, mais pas que. Et il fonctionne comme ça par. c'est pas des grands groupes financiers qui apportent de l'argent. C'est de l'argent. On appellerait ça du crowdfunding aujourd'hui, en fait. Donc. Avec un caractère ouvrier, militant. Voilà. Bon, ça n'a pas duré très longtemps.
Hein. Ah oui,
mais ça. Ouais, mais quand même, je veux dire. Les commémorations, y a peut-être eu des hauts et des bas selon les périodes, bien sûr, mais y a quand même toujours, même de nos jours, c'est à date fixe, cette commémoration de la montée, ce qu'on appelle la montée au mur, hein, plus ni moins. Enfin,
ouais, bon, alors, maintenant, ça, on monte au mur. Ça fait partie des classiques. Voilà. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est comme tu disais, les
petits clins d'œil,
les petits clins d'œil dans certains films.
Oui, oui.
Et d'ailleurs c'est un rappel comme ça, c'est pour montrer que c'est toujours vivant en fin de compte, hein, comme disait Eric tout à l'heure, toujours debout, comme le rappelait le son cinquantenaire. C'est une manière. Chacun peut participer comme ça en rappelant qu'il y avait.
Dans Mélancolie.
Alors, vas-y, raconte-nous. Donc.
Ouais, dans Mélancolie ouvrir là, ce film. Avec Virginie Doyen, je crois, qui est basée sur une histoire véridique. Là, on est dans les années 1910, le début du XXe siècle. Et puis, il y a une assemblée où, apparemment, il y a quelqu'un qui veut faire voter quelque chose. Il y a des anarchistes qui sont à trahison, le vote, votons, trahison, trahison. Et d'un seul coup, je crois que c'est les acteurs de Deschiens, là, je crois, Morel, je crois, qui se lève et qui, pour calmer un petit peu la salle, commence à entamer la semaine sanglante, quoi, en fait. Donc, je connais pas vraiment plein d'autres. Je sais pas si toi, Fabrice, tu connais d'autres clins d'œil dans des films ou.
Oui, justement, il y avait dans un film de 1980. Je vais reprendre un petit peu mes notes parce que je suis pas très bon.
T'as pas besoin de le dire.
Mais si, parce que c'est, en disant ça, ça permet de me retourner puis de chercher. Dans un film de Pierre Fabre qui s'appelle Tout dépend des filles, donc de 1980, on a Galabru qui joue un vieux Montmartrois. Alors, je dirais pas qu'il parle pas spécifiquement de la commune, mais il y a quand même dans son appartement, donc ça, c'est une sorte de braconnier là, qui va faire de la pêche illégale sur le. Sur le lac de Vincennes, je ne sais plus où exactement. Mmh. Bref, et on voit dans son appartement des bouts d'affiches, pas de la commune, mais de commémoration de la commune, et des affiches aussi du monde libertaire, de la fédération anarchiste même.
Ah tiens.
Fédération anarchiste et le monde libertaire. Mmh. Et voilà, voilà, donc c'est Galabru. Vous saviez, vous, qu'il avait eu un rôle d'anar comme ça ?
Ah ben non, hein, tu vois, ben non.
Alors,
j'ai bien fait de venir. Quoi.
Alors, et c'est pas juste un hasard, parce qu'en général, les réalisateurs, ils font pas ça par hasard.
Rôle de composition.
Donc, ce réalisateur Pierre Fabre, il avait été aussi scénariste sur un film de Philippe Fourastier en 69, dans lequel jouaient Bruno Kremer et puis Jacques Brel, sur La bande à Bono.
Ah oui.
Et le film s'appelle La bande à Bono.
La bande à Bono,
voilà.
le fameux film.
Donc, et ce petit clin d'œil. Et puis, un autre film aussi d'Antonin Perez-Jaco, ça c'est plus récent, 2013, où au tout début du film, alors ça s'appelle La fille du 14 juillet, où ça tombe pendant le 14 juillet, le défilé du 14 juillet, et puis il y a l'actrice principale, qui est interprétée par Vimala Ponce, qui passe avec sa petite corbeille et qui essaye de vendre la commune aux militaires qui se préparent pour le défilé, quoi. Bon, je trouvais ça assez marrant, quoi. Achetez la commune. Moi, je trouvais ça marrant.
C'est sûr.
Moi, ça m'amuse. Moi, je m'amuse d'un rien, faut dire.
Oui, mais c'est bien.
Je suis bon public.
C'est bien.
Hein.
Continue, hein. Ben, ouais. Non, mais bon, on va dire, comme là, il faut qu'on ferme le volet, parce que là, il est bientôt. C'est bientôt.
C'est bientôt la commande, maintenant. On occupe l'antenne.
Non, mais on fait ce qu'on veut, mon gars.
Non, mais est-ce que de l'autre côté.
On occupe l'antenne.
Justement, je crois que t'es un bourgeois de l'autre côté de toi, là. Mais bon, c'est un bourgeois républicain.
C'est une histoire potine, quand même. Attention à ce que tu dis.
Ah, tu es en train de te créer des ennuis, Norbert. Je me désolidarise.
Non, mais
c'est désolé.
Bravo, mais t'as dit. Oui,
mais non, mais disons que ce qui s'est passé pendant ces quelques jours de la commune, même si ça n'a pas réussi, bon, ça a quand même semé des choses qui ont été mises en place, pas totalement certes, mais qui a été mis en place quand même pour avoir des changements dans la vie quotidienne. Comment tu les appellerais, tu m'as dit, Fabrice, des citoyens? Non, pas des citoyens.
Ouais. Elle n'aime pas ce mot-là.
Non. Est-ce que tu... ouais. C'est difficile en ce moment. Comment tu peux les appeler en ce moment
Bon.
Bah, déjà...
Il y a peut-être d'autres trucs à dire quand même, hein, que vos imbécilités sur les citoyens.
Ben non, mais
non, parce qu'on parlait dès le départ, il y a eu parce que même avant l'amnistie, me semble-t-il, si on lit ça, on peut lire ça dans la commune de Louise Michel.
Oui.
Il y a, alors je me souviens plus du nom, je peux le retrouver, mais là comme il nous a bien rappelé qu'on avait peu de temps, on va pas le faire. Des condamnés qui enterrent des bouteilles. Ah, pour pas, parce que hein, tu fais pas ce que tu veux, hein, quand même, quand t'es en relégation là-bas en Calédonie.
Ouais.
Et puis tous les 18 mars, toi, ils sortent le litron et puis pour trinquer avec les amis. Donc, ouais. Même déjà, pendant la répression, il y avait quand même cette idée pour le 18 mars de commémorer le 18 mars entre anciens communards, ouais. Mais quand même. Et puis d'autres aussi, Pelloutier, puisque nous, on est quand même syndicalistes révolutionnaires, on aime bien ça. Pelloutier nous rappelle au bon souvenir de Maxime Lebon, qui, après être revenu justement de Calédonie, et qui avait été un ami de Rochefort, Trinquet aussi, pour des. Enfin, il fait partie de ces forçats. Il y en avait d'autres, qui, en revenant justement après 1881, après l'amnistie, avait ouvert une sorte de bistrot sur le boulevard Rochechouart, sur lequel il y avait tout un une sorte de chat noir en fait, et dans lequel il y avait tout un processus de il reproduisait un petit peu une sorte d'une caricature de ce qui se passait au bagne. De toi, comment on était, enfin pas maltraité, mais comment on devait obéir, et puis on était assujetti un petit peu aux ordres. Et voilà, avant avant que commencent les libations. Voilà. Bon, je pense que ça a été très clair, mais il y avait cette volonté chez les. Alors ça, c'est dans une chronique hein, du 13 novembre 1885 de Pelloutier. Donc, tu vois, très tôt quand même, il y avait, on rappelait qu'il y avait la commune, ce qui s'était passé. Et bah, et le père Pénard aussi.
Oui,
donc le père Pénard, c'est Émile Pouget, donc dans les années 1890, 93 comme ça, où effectivement, il parle souvent de soit de la semaine sanglante, soit du 18 mars, et même pendant les manifs du 1er mai, il fustige justement des Delescluze et les Rochefort qui n'ont pas été jusqu'au bout lors de la mort de l'enterrement de Victor Noir jusqu'au bout. Ils auraient pu commencer la révolution bien avant le 18 mars.
Et puis il y a toute la partie les exilés, hein, dès le printemps, la fin du printemps 1871, il y a des exilés en Belgique, en Grande-Bretagne,
Valès.
Qui très rapidement vont s'écrire et alors, pas commémorer au sens officiel, mais vont échanger à des dates aussi symboliques, dont celle dont on a parlé.
Comme on dit, la commune n'est pas morte, et c'est pourtant vrai. C'est-à-dire que par rapport aux années qui vont suivre la commune, les idées qui ont été mises en place ou qui ont été évoquées pendant la commune vont continuer à être des terrains de lutte, des revendications, des combats pour avoir des acquis sociaux que malheureusement de nos jours on nous retire.
Et oui, alors camarades, nous terminons cette émission. La commune n'est pas morte. Le 18 mars aujourd'hui est une date anniversaire, nous l'avons vu.
Oui.
Les amis de la commune aujourd'hui, continue à perpétuer
l'association.
Il y a une montée. Alors, il y a une montée au mur de la commune. Alors, ça a été. Je crois qu'ils l'ont fait.
Aujourd'hui, commémorerait en effet
le mur des fédérés.
Voilà. Et il y aura aussi le.
Le 28 mai.
Le 28.
Oui, normalement, c'est le 28 mai.
Place des fêtes. On vous donnera plus de.
On donnera les infos.
Précisions plus tard.
Quoi. Et peut-être que d'ici là, on mettra Macron là-bas.
Voilà. Donc, on vous rappelle que vous êtes sur Radio Libertaire. C'est la fin de l'émission Le Monde Merveilleux du Travail. Je remercie Eric d'avoir fait l'animation, Norbert d'être venu, Fredo d'être venu. On va laisser l'antenne au Proton se rebiffe. Et je vais lancer le générique.
De fin.
Ouais.
F-A-G-M.
Je vais lancer le générique. Et.
Et à ciao. Et à ciao, et merci de nous avoir écoutés.
Et dans 15 jours.
Dans 15 jours.
Ou même encore maintenant, flirter avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord, faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
Que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Le Proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Bonsoir,
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Le Proton se rebiffe, et ce soir, nous parlons du livre d'Alain Denot, De quoi Total est-elle la somme ? Multinationales et perversions du droit, paru chez Rue de l'Échiquier et Éco-Société. Ah, Total, cocorico ! La seule société française parmi les cinq majors, les entreprises géantes du pétrole. Total, le bonnet phrygien, Marianne, la République, Liberté, Égalité, Fraternité contre les Texans, la perfide Albion et les Yankees. Pas vraiment. Ce livre a, de très loin, la meilleure quatrième de couverture que j'ai jamais vue. Cette quatrième de couverture se contente en effet de reprendre la table des matières. Une table des matières très grammaticale, mais encore plus sanglante, car elle liste les 12 chapitres du livre que voici. Comploter, coloniser, collaborer, corrompre, conquérir, délocaliser, pressurer, polluer, vassaliser, nier, asservir, régir. Tiens donc, le fleuron de notre économie, le pilier de notre PIB, le sourire de notre CAC 40, ne serait qu'une vulgaire multinationale parmi tant d'autres ? Total ne serait que l'un de ces gangs mafieux qui, non content de ravager nos vies, ravagent, oh, juste en passant, aussi la planète ? Oh que oui ! Et je dois avouer que si l'on me parlait il y a quelques années de Total, je ne pensais certes pas avoir affaire à Médecins du Monde ou au Secours Populaire, mais la lecture de cette somme extrêmement bien documentée m'a stupéfié, tant la liste des méfaits, voire des crimes de Total, est longue. 500 pages, si vous voulez tout savoir. D'ailleurs, avec une savoureuse ironie et une érudition sans faille, la citation, en exergue au début du livre, vient de l'excellent lexicographe M. Littré, et c'est sa définition du mot « total ». Total, à quoi il ne manque rien. Et l'introduction de ce livre, dont le sous-titre, je rappelle, est « Multinationales et perversions du droit », l'introduction de ce livre, donc, s'intitule « Du droit à la violence. » Le droit à la violence, en première année de Sciences Po, allez, le premier ou le deuxième jour, on vous enseigne que l'une des définitions de l'État, c'est qu'il est l'institution qui a le monopole de la violence légitime. Mais Total, comme toute multinationale qui se respecte, pense autrement. Christophe de Margerie, ex-PDG de Total, avait déclaré, sourire aux lèvres, « Tant que ce n'est pas interdit, c'est permis. » Forte parole que l'auteur du livre, docteur en philosophie et forte tête, traduit brillamment ainsi. « Tant que nous serons une entité multinationale dans les interstices des nombreuses législations étatiques dont nos filiales relèvent, tant que nous savons nous mettre hors de portée de la nomenclature